Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes.
Bonjour Guillaume,
bonjour, bonjour Guillaume.
Marie, bonjour à tous.
Ah oui, en pleine forme, effectivement. Voilà, on enregistre cette émission un jour de férié, donc c'est pratique. Voilà, on est tranquille.
On travaille pas. Ouais, comme ça c'est dit, c'est bon.
Voilà,
pas
comme ça, c'est dit.
Et bonjour à nos chers auditeurs.
Eh bien oui, voilà. Bonjour à tous. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va commencer avec
Aurélie.
Avec Aurélie.
Alors moi, je vais vous parler du nouvel album de Jeanne Chéral.
Très bien, et toi Guillaume?
Moi je vais vous parler du Parlement européen, voilà.
Ouh, ça va être passionnant.
Et Anne-Marie?
Le côté éducation civique.
Mais je vais rester dans l'Europe et je vais vous parler de l'Eurovision.
Voilà, on aura l'Europe
on
sous
est
deux
à fond,
regards.
Voilà.
Exactement. Alors on va commencer avec toi Aurélie, tu as décidé de nous parler musique.
Oui, effectivement, je vais vous parler du nouvel album de Jeanne Chéral, donc, qui est sorti le 10 mai 2014, Histoire de J. Pour moi, c'est son album le plus personnel, même si le J du titre ne se réfère pas toujours à Jeanne. Il a été composé en partie juste après un concert hommage à Véronique Sanson, amoureuse, et c'est le quatrième album, assez haut en couleur et en musique, de la chanteuse. Donc, Histoire de J, c'est un peu comme un livre ouvert qui vous ferait défiler plusieurs portraits d'une jeune fille devenue femme en quête de vie, d'envie, Jeanne Chéral, et sans contexte, une femme amoureuse, elle aussi.
Bon, alors, dis-nous un petit peu plus sur Jeanne Chéral.
Alors pour moi, c'est une artiste qui est à la fois féminine et féministe, mais pas ringarde. Elle écrit paroles et musique dans tous ses albums depuis 2001. Son écriture est toujours très ciselée, elle parle d'histoires de femmes du monde entier, de filles abandonnées par des amoureux transis dans Parfait Inconnu, de femmes au corps lacéré par des maris pas choisis. On dirait que c'est normal. Elle s'attaque aussi à des idées obtus ou préconçues dans notre société vis-à-vis de la différence, dans le tissu par exemple. Et dans ce nouvel album, elle revient en fait poser avec force des mots qui résonnent longuement au creux du ventre. Sans tambour ni trompette, elle est même devenue l'une des chanteuses les plus attachantes de sa génération. Pourquoi alors attendait-on ce nouveau disque avec une fébrilité un peu teintée d'inquiétude? Mais en 2006, L'eau, son album précédent, deux albums précédents, L'eau nous avait emporté par sa densité aérienne qui cernait en douceur des sujets très complexes. Le tissu, la chanson dont j'ai parlé tout à l'heure, est sans doute une des plus belles chansons jamais écrites sur le voile. Charade, qui était sorti 4 ans plus tard, fut certes réussi, mais ne parvenait pas à trouver le même équilibre, la même alchimie. À l'époque, la jeune femme semblait se chercher, en quête d'elle-même, de son style, accouchant un peu au forceps d'une pop-rock qui ne collait pas toujours à son monde, qui est très en nuance. Et depuis, pas de disque. Une participation aux Françoises. Alors, les Françoises, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un collectif en fait, de 6 fausse Françoise, qui crée l'événement le temps d'un concert unique à Bourges. Donc vous les reconnaîtrez sans peine, puisque c'est Françoise Ruiz, la grande Françoise, Françoise Chéral, Françoise Loiseau, Françoise C, alias Camille, et à laquelle il faut ajouter la peut-être moins connue Françoise R, pour Rosemary, la chanteuse de Moriarty, dont je vous ai déjà parlé. Alors, elle a également un rôle dans un opéra contemporain qui s'appelle The Second Woman. Puis, en 2012, un concert hommage, dont j'ai déjà parlé, à Véronique Sanson. Alors, on s'est dit que c'était sans doute une récréation qui laissait peut-être craindre un peu une panne d'inspiration, mais ce fut plutôt une révélation. Car Jeanne a tout compris et a beaucoup retenu de son si chaleureux album, des albums de Véronique Sanson. Je vous fais écouter un petit morceau qui moi, m'a vraiment saisi par la proximité. C'est le morceau qui s'appelle « J'ai faim ». Alors, je pense qu'il y a un vrai son Véronique Sanson. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Non, moi, ça m'avait vraiment
c'était,
fait penser.
C'était assez proche, malgré tout, de ce qu'elle avait pu chanter au début.
Ah bah, sa petite voix, oui, fluette, voilà. ça change pas. Mais je trouve que sur la
couleur
musicale...
Oui, dans l'engagement,
Voilà. Elle y va vraiment. Et elle ne s'en cache pas, en fait. Ce cinquième disque sonne vraiment comme un hommage, un exercice d'admiration, si bien digéré qu'il ne penche pas vers le plagiat, mais semble au contraire l'aider à s'exprimer tout à fait. Dès le début, donc une très longue intro, presque un générique, nous immerge dans des harmonies qu'on jugerait issues du début des années 70. Une musique un peu charnelle, organique, d'autant plus réjouissante qu'elle se fait rare en fait sur la scène hexagonale. On sature un peu de tous ces chanteurs qui, les uns après les autres, cèdent à des sonorités très froides et synthétiques qui suivront à partir de la décennie 80.
C'est donc un disque à l'ancienne.
Oui, effectivement, la chanteuse donc livre avec Histoire de J, un nouvel album inspiré, enregistré comme dans les années 70, enregistré en une douzaine de jours, principalement sur des bandes analogiques, avec des musiciens qui jouaient ensemble, comme sur la chaîne. Donc Histoire de J, comme sur la scène. Comme
oui,
sur la scène.
Parce que sur la chaîne...
Voilà, ils peuvent jouer sur la chaîne s'ils veulent, mais sur la scène, c'est mieux. Donc, comme s'ils étaient sur scène. Histoire de J, en fait, s'est fait à l'ancienne, de la façon la plus spontanée possible, dans un grand studio bruxellois. Pourquoi Jeanne Chéral et son guitariste Sébastien Hogg, qui signe une des plus belles réalisations de l'album, se sont-ils privés des 1000 possibilités, parfois très pratiques, du numérique? Sans doute parce que, justement, l'analogique confère au son davantage de chaleur. Peut-être aussi parce qu'il autorise moins les retouches et qu'il oblige à mieux soigner la vérité de l'instant. La plupart des chansons étaient enregistrées en une seule prise. La chanteuse s'est concentrée sur son jeu de piano et sur sa voix. Car contrairement à ce qu'elle avait fait pour Charade, où elle avait assuré toute seule tous les instruments, là, elle a vraiment partagé avec ses musiciens. Donc un nouveau petit extrait de « Comme je t'attends ».
Je voudrais te parler ce soir, toucher ta peau, sentir ton cou, sans te connaître et sans te voir. C'est un peu bizarre, je l'avoue, te regarder dans tes grands yeux, deviner tout ce qu'ils contiennent, tenir comme les doigts de Dieu, ta main plus douce que la mienne. Mon amour, si tu savais comme je t'attends. À la nuit pâle, au petit jour, je pense à toi tout le temps.
Donc voilà, je pense que là, vous avez bien entendu la sonorité du piano sur cette jolie chanson en fait, qui évoque l'attente d'un enfant. Donc moi, qui m'a particulièrement touchée.
Oui, puis c'est très épuré, c'est ça qui est joli. C'est juste une voix posée sur un piano et ça fait du bien aussi d'entendre ce genre de musique.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les textes de Jeanne Chéral ?
Eh oui, justement. Effectivement, le propos est lui aussi très sensuel, corporel, voire parfois sexuel. Il enchante par son audace, paré d'une écriture non démonstrative. Non, je ne vous ai pas mis d'extrait de celles qui sont vraiment chaudes bouillantes. Je vous prêterai l'album.
C'est une rubrique qui est de toute façon réservée à Anne-Marie. Donc.
Tu peux passer pour qui ?
Pas toujours, justement. Donc, elle est parée d'une écriture qui est un peu moins démonstrative, mais il frappe en fait cet album par sa cohérence. Plus on écoute les chansons, plus on découvre qu'elles se répondent les unes aux autres, un peu dans un jeu de miroirs multiples. Les deux premières, donc J'ai faim et L'échappée, qui évoquent les lois du désir, une sorte de trésor intime et par essence périssable. Les deux suivantes sont plus politiques, avec Nox Solo qui dénonce l'ostracisme sexuel. Quant à Non c'est non, chanté avec les Françoises dont je parlais tout à l'heure, il s'en prend aux violeurs et je vous en propose un petit extrait.
Mais quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, dommage. Range ton crayon, ta plume sauvage. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, mon vieux. Range ton bâton et place aux adieux. Quand c'est non, c'est non.
On a retrouvé toutes les voix derrière de la bande des Françoises. Et donc, je continue à vous raconter un petit peu cet album, puisque après, effectivement, ces chansons un peu plus politiques, c'est l'ardeur de la rencontre qu'on retrouve croquée dans un bingo joyeux que je vous ferai écouter tout à l'heure, ou Un cheval de feu, la chanson que j'évoquais, qui est très volcanique, hein, avec des allusions sexuelles d'une parfaite limpidité. Ce titre-ci consacre vraiment le culot de la chanteuse. Le texte et la musique s'y gonflent de libido et s'y déploient quasiment comme un coït. Qu'elle semble loin, la petite Jeanne de ses débuts qui montait sur scène, affublée de ses deux tresses enfantines. Donc les chansons, elles restent quand même du Jeanne Chéral dans le texte. Sous de faux semblants autobiographiques, la féminité et l'amour, ils sont encore une fois explorés sous tous les angles. Donc la mélancolie avec Petite Fleur, le désir d'enfant, le désir tout court, et bien sûr l'engagement qu'il se présente en fait sous des dehors féministes légers, donc quand c'est non avec les Françoises dont je parlais tout à l'heure, ou Noxolo, la chanson que j'évoquais, qui raconte l'histoire d'une femme sud-africaine battue à mort pour son homosexualité. Je vous en propose un petit extrait.
Coupure de journal épinglée au mur. C'est tout ce qu'il reste, ce qu'il reste de Noxolo. Joli crâne lisse, ses pantalons d'homme, le front collé au carreau. Elle n'avait peur de rien, peur de rien.
Donc c'est un album qui finalement est assez humble et en même temps ambitieux, sous influence et intimement personnel. Donc ce nouveau disque pour moi est d'ores et déjà un classique de Jeanne Chéral. Alors au niveau de l'actu, hormis évidemment ce nouvel album, vous pourrez aller l'écouter sur scène si ça vous dit. Pour nous, pas vraiment dans le coin, elle était au printemps de Bourges la semaine dernière, mais là le 13 mai au Figuier Blanc à Argenteuil, le 14 mai au Radiant à Caluire, le 24 mai au Diapason à Saint-Marcelin. Donc vous voyez, elle fait plutôt des petites salles hein, pour vraiment avoir un
en
contact.
En même temps, je pense aussi que...
Ça
lui ressemble aussi. Je la vois mal chanter à Bercy.
C'est clair.
C'est sûr.
C'est clair. Elle fait le Bataclan quand même à Paris.
Oui,
c'est une petite salle, ouais. Voilà, je vous propose donc de finir avec Bingo, qui était une chanson... J'ai essayé de vous trouver un truc un peu plus péchu pour finir.
Des personnes, la peau facile et le cœur à la traîne, des indociles, j'étais la reine. Je n'attendais rien, je n'attendais personne. Pendant les va-et-vient, je comptais les klaxons. Un jour, un soir, il a brisé ma glace, sans le savoir, il a trouvé sa place. Avec lui.
et lui.
Et bienvenue dans cette deuxième partie d'Actuel et lui. Donc on retrouve Guillaume qui va nous évoquer le Parlement européen.
Et oui, je vais vous parler du Parlement européen, puisqu'on va bientôt se rapprocher des élections européennes. Et donc, c'était l'occasion.
Tu nous rappelles les dates d'ailleurs ?
Voilà, c'est le 25 mai. Hein, il n'y a qu'un seul tour. Voilà, et donc, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais voilà, donc le 25 mai. Et puis, déjà, le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Hein, donc, on peut déjà parler de l'Europe d'ici là. Voilà. Donc, le Parlement européen, en fait, il a été créé en 1979, et depuis 1979, les Européens élisent tous les 5 ans leurs représentants donc à ce Parlement, c'est la seule assemblée parlementaire multinationale au monde et la seule institution de l'Union européenne élue directement par les citoyens. Et il représente environ 500 millions de citoyens des 27 États membres de l'Union européenne. Et des élections ont lieu tous les 5 ans. Celles de juin 2009 ont marqué le 30e anniversaire de la première élection au suffrage universel direct. Et à la suite de celle-ci, le Parlement comptait 736 députés européens réunis en groupe, formés sur la base des affinités politiques et non des différentes nationalités. Donc c'est vrai que ça donne une représentation assez assez vaste, avec notamment un groupe centriste très important, un groupe vert aussi qui est important, de même qu'un groupe des entités nationales, donc dans lequel par exemple on retrouve le FN français.
C'est comme ça que moi, qui étais à Florence il n'y a pas très longtemps, je suis tombée nez à nez avec une énorme affiche de José Bové.
Et oui, tout à fait.
En fait, j'étais hyper étonnée. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est parce qu'en fait, il est dans le même groupe que le Premier ministre italien.
Et oui, et José Bové, effectivement, est la tête de liste pour la région, pour notre région, pour la liste Europe Écologie Les Verts. Depuis les élections de 2009, 18 députés sont arrivés avec le traité de Lisbonne, donc ont rejoint l'ensemble, et puis les députés croates sont également rentrés en 2013 dans l'hémicycle.
Bien, et le siège du Parlement alors se situe à Bruxelles ou à Strasbourg, ou les deux ?
Alors, le siège officiel, c'est Strasbourg, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu contesté. Mais bon, alors ça a été positionné effectivement à Strasbourg, à la frontière entre la France et l'Allemagne, et une ville qui symbolise la réconciliation de l'Europe après les deux guerres mondiales. Ils ont décidé donc les États membres de placer ce Parlement. Et donc il y a 12 sessions plénières, une fois par mois. Le rythme du Parlement, on en parlera tout à l'heure, il est chaque mois à peu près le même.
Ah, comme te dire Aurélie, c'est un mensuel alors.
C'est ça.
C'est une réunion mensuelle.
C'est ça. Et donc pendant
j'ai
une
semaine, j'y pensais, mais je me disais non.
Donc voilà, pendant une semaine, ils sont à Strasbourg. Et pendant les autres semaines, ils travaillent essentiellement à Bruxelles, où il peut y avoir des sessions plénières supplémentaires, ce qui fait qu'il y a deux hémicycles, et en tous les cas, il y a toutes les commissions qui ont lieu à Bruxelles. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi que toutes les langues officielles de l'Union européenne peuvent être utilisées dans l'enceinte du Parlement. Pour représenter la devise de l'Europe unie dans la diversité.
Alors, on se doute que depuis la création du Parlement, eh bien son rôle a dû changer au fil du temps.
Oui, puisque depuis 1979, les traités européens successifs ont élargi les compétences du Parlement, notamment dans l'élaboration du budget et des lois de l'Union européenne. Et le contrôle politique des députés européens sur les autres institutions et organes de l'Union a été également renforcé. Et c'est notamment le traité de Lisbonne qui a apporté le plus d'évolution dans ce cas-là, hein, qui a été entré en vigueur en 2009. Et donc le pouvoir budgétaire du Parlement est étendu à toutes les dépenses de l'Union européenne, y compris celles qui étaient réservées au départ au niveau du Conseil, donc des représentants des gouvernements des différents pays de l'Europe. Et c'est notamment la question de la politique agricole donc qui a été intégrée aussi dans le pouvoir du Parlement. La quasi-totalité donc des domaines de compétences de l'Union européenne sont évoqués par le Parlement. Donc voilà, au tout départ, il s'intéressait essentiellement à tout ce qui était la circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, la protection de l'environnement et des consommateurs. Et maintenant, bah, effectivement, on rejoint l'agriculture, la pêche, l'énergie, le tourisme, le contrôle des frontières extérieures, la coopération policière, judiciaire, ou encore la protection civile. Voilà. Et donc, depuis le traité de Lisbonne, le candidat au président de la Commission européenne est proposé par les gouvernements sur la base des résultats des élections européennes, et il est ensuite élu par le Parlement. Et ça, c'est une nouveauté qu'on va voir cette fois-ci. Et la Commission, dans son ensemble, est aussi soumise à un vote d'approbation au Parlement. Et c'est notamment aussi le cas pour le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, qui aussi fait partie donc de la commission. Voilà. Donc après, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut citer pour comme des actions du Parlement, mais on va y revenir, notamment son rôle dans tout ce qui est liberté d'expression et aussi la possibilité de faire participer, enfin que les citoyens puissent directement agir auprès du Parlement.
Et les députés européens, en fait, proposent des lois ?
Oui, la Commission propose un certain nombre de textes, mais le Parlement peut aussi, effectivement, a vraiment un rôle comme le Parlement français.
Oui, parce que rassure-nous, on va quand même donc voter le 25 mai. Tu nous as dit pour des députés, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font ?
Voilà. Ben en fait, la Commission va faire des propositions de textes. Et quand le Parlement juge qu'une proposition de loi est mauvaise et qu'elle ne peut être améliorée, il a le pouvoir de rejeter le texte dans son ensemble. C'est par exemple ce qui s'est passé sur la directive sur la libération des services portuaires ou sur les brevets des logiciels. Mais après, sinon, ils ont le pouvoir de travailler par amendement, comme on le fait à l'Assemblée nationale, où le texte, après, par un système un petit peu complexe d'aller-retour entre le Conseil, donc les représentants des gouvernements, et de l'Assemblée, le texte se co-construit et arrive à une version finale avec, s'il y a une opposition entre le Parlement et le Conseil, une phase de conciliation qui est prévue, comme aussi on retrouve un peu ce fonctionnement-là aujourd'hui, enfin chez nous en France, entre le Sénat et l'Assemblée, avec la commission mixte qui permet de régler un peu l'ensemble à la fin.
Voilà. Mais sauf que là, on a l'impression, c'est vrai que les députés européens, ils font pas grand-chose. On a l'impression qu'ils ont pas trop de pouvoir non plus. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça nous passionne pas vraiment cette élection, parce que ça nous semble tellement loin. Et puis, oui, on a l'impression qu'ils sont impuissants finalement.
Il faut se détromper, parce qu'en fait, ils sont extrêmement puissants et ils travaillent beaucoup. Contrairement à nos députés, on en parlera tout à l'heure.
Ils sont. Enfin, c'est une impression en tout cas.
Oui,
c'est vrai.
Enfin, ils sont présents au Parlement quasiment 3 voire 4 semaines par mois entières. Donc ce qui représente beaucoup de travail. Sachant que voilà, nos députés, sénateurs, etc., nos parlementaires français sont une partie de la semaine dans leur circonscription et on va dire 2 à 3 jours.
Mais ça va bientôt changer.
Et oui, ça va changer, oui, c'est sûr. Voilà, mais c'est vrai qu'ils interviennent, je l'ai dit un petit peu les sujets, mais on va y revenir aussi sur les sujets sur lesquels ils travaillent. Ils interviennent sur des champs très très importants et notamment sur la sécurité des personnes, sur plein de sujets où effectivement on a l'impression que c'est des contraintes, mais c'est aussi une façon de vivre en sécurité sur le territoire grâce justement à un certain nombre de cadrages européens et qui donnent, sur lesquels ils travaillent vraiment de fond. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que les députés ont un droit d'initiative et ils peuvent proposer à la Commission des propositions aussi législatives, et ce qui permet après à la Commission et au Conseil de développer des politiques existantes ou d'en faire de nouvelles. Par exemple, il y a eu un projet de loi pour réglementer les procédures des héritages transnationaux. Donc là, c'était une proposition des députés parce que effectivement, ça pose des problèmes dans le cas de couples qui ont, enfin, ou de familles qui sont transnationaux.
Voilà.
Et puis donc les citoyens peuvent aussi proposer des lois et demander à ce que le Parlement et d'une certaine façon la Commission européenne aussi se saisissent, puisque avec le traité de Lisbonne, si 1 million de citoyens européens ressortissants d'un quart des États membres font une pétition, et bien à ce moment-là, la Commission européenne a obligation de présenter une proposition de loi sur les questions qui sont évoquées par la pétition. Donc voilà, 1 million de citoyens sur un quart des États membres, c'est relativement faisable sans trop trop grandes difficultés. Enfin, en tous les cas, ça a été fait pour. Et c'est effectivement assez intéressant d'avoir cette possibilité de mobilisation de l'Union. Voilà.
Et mobilisation, donc il y en sera question le 25 mai à l'occasion de l'élection.
Eh bien oui, effectivement, l'autre façon pour les citoyens de participer, c'est effectivement de pouvoir voter. Donc ça sera le 25 mai dans l'ensemble des pays européens. Alors il n'y aura pas de résultat avant 23h le jour même, puisque l'Italie vote jusqu'à 23h et donc par respect de... Comme ça se fait d'ailleurs en France quand certains bureaux ferment à 20h, ben on attend la fin de la fermeture des bureaux de vote de l'ensemble des pays. Voilà. Donc effectivement, le 25 mai, ben voilà, on peut critiquer l'Europe, mais justement, allons voter pour faire en sorte que les gens qui sont élus, qu'on puisse la faire changer. En tous les cas, voilà.
Sauf que ça passionne pas du tout. On le voit bien, rien que dans les médias, il n'y a aucune couverture où c'est traité de façon assez rapide. Ça passionne pas vraiment, quoi.
Parce que, enfin, moi, par exemple, je suis bien incapable de dire qui se présente aux élections européennes pour nous, quoi. Enfin, entre qui et qui on va avoir le choix.
Oui, alors.
J'ai encore rien vu. J'attends l'enveloppe là qu'on reçoit en me disant, là, au moins, je me ferai mon petit briefing. Mais pour l'instant.
Alors, il avait même été question. Et c'est justement, il y a eu une forte mobilisation que cette enveloppe ne soit pas envoyée pour des questions d'économie budgétaire. Ah, oui. Et finalement, il a été choisi de maintenir cet envoi.
Moi, je vote pour. Cet envoi. Parce que sinon, je suis bien incapable
mais,
de savoir.
Mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus intéressé par d'autres débats publics, pas forcément. Beaucoup plus porteur d'espoir et d'avenir que celui-là, mais bon, je pense que on rentre aussi dans la phase effective maintenant de la campagne électorale, dernier mois,
dans une vingtaine de jours, et on ne sait toujours pas effectivement qui se présente pour la région, et puis les enjeux.
Et c'est aussi,
il n'y a aucune couverture médiatique pour le moment.
C'est pour ça qu'on en parle sur 48 FM. C'est vrai que par exemple pour la Lozère, nous faisons partie de la circonscription sud-ouest, donc qui est immense, qui correspond quasiment au découpage du 05, en plus avec du 05 du téléphone, hein. C'est-à-dire c'est le quart, c'est vraiment le quart sud-ouest de la France, en rajoutant le Languedoc-Roussillon, voilà, sachant qu'il y a une région centre au milieu, mais qui reprend juste l'Auvergne et le Limousin, voilà. Donc c'est vrai que c'est vrai.
Anne-Marie dit que le Limousin c'est quand bien. Même une région très importante.
Ouais, tout à fait.
Je n'ai rien dit, mais j'ai pensé.
Voilà. Elle nous a fait des signes. Donc non, mais voilà, c'est vrai que c'est important de d'essayer de se renseigner, mais on peut aller sur internet, on retrouve beaucoup d'informations. Alors c'est pas forcément parfait, mais il y a notamment les centres Europe Direct, donc il y en a 3 en Languedoc-Roussillon qui sont des centres d'information sur l'Europe et sur lesquels on peut trouver plein d'informations sur comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, il y en a 3, hein. La Lozère est plutôt rattachée à celui de Nîmes, mais sinon il y a une maison, donc il y a la maison de l'Europe de Montpellier, et également le centre Europe Direct Pyrénées et Languedoc-Roussillon qui est à Prades, dans les Pyrénées-Orientales.
Bon, et on parle concrètement maintenant, qu'est-ce que le Parlement européen a pu produire comme texte? Qu'est-ce qui peut nous toucher finalement dans notre quotidien
pour je vais essayer de vous donner quelques exemples. Ces dernières années, les députés européens ont contribué à faciliter la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles entre les États membres. C'est notamment ce système LMD dont on a souvent entendu parler, mais qui permet d'avoir
licence, maîtrise, doctorat,
et qui permet d'avoir une certaine équivalence entre les formations au niveau
européen. Parce qu'avec son DUG, en fait, on pouvait rien faire.
Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même un élément important pour pouvoir aller travailler ailleurs et puis pour pouvoir reconnaître ces qualifications. Les parlementaires ont aussi participé à la mise en norme, à la mise en place de normes en matière de sécurité, d'étiquetage des produits, donc notamment sur tout ce qui est la présence d'OGM, tout ce qui est les marques, la protection, les IGP, les AOP qui sont des signes de qualité agroalimentaire européens. Le Parlement européen a aussi renforcé le droit des passagers aériens et ferroviaires, notamment pour les remboursements quand vous avez un problème de réservation, quand il y a du surbooking, quand il arrive, voilà, tout ça, c'est la législation européenne qui s'applique. On l'imagine pas, on se dit oui, c'est SNCF ou Air France ou enfin voilà qui fait cadeau pour un geste commercial, mais en fait il se conforme à une obligation de l'Union. Voilà, donc c'est aussi l'encadrement des lieux de baignade, donc de la qualité des eaux pour la baignade. Voilà, donc y a plein de petites choses. On a aussi des mesures qui ont été conduites pour limiter les effets du réchauffement climatique, donc avec un engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des voitures, de l'industrie, des centrales électriques. Et donc le Parlement soutient l'objectif de baisser de 20% les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de l'Union européenne d'ici 2020. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est que quelques petits exemples, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui nous concernent vraiment dans notre vie quotidienne. Enfin, voilà, quand on achète un objet, un jeu pour les enfants, ben voilà, il y a aussi derrière un encadrement européen qui permet à l'enfant de pas se blesser et d'être voilà, tout ça, c'est aussi l'activité des parlementaires européens. Alors, ça peut apparaître un peu saugrenu, un peu limitant, un peu bloquant, contraignant, mais au final, c'est ce qui nous permet de vivre en sécurité et avec voilà, avec des conditions aussi assez intéressantes d'échange avec nos pays voisins.
Bah oui, surtout qu'en plus, on parle là vraiment d'une autre échelle. Et ça nous permet aussi de préserver la liberté d'expression et de l'esprit.
Oui, ben, le Parlement européen est vraiment engagé sur cette question de la liberté de l'esprit. Et ils ont donc créé le prix Sakharov, donc pour la liberté de l'esprit, hein, qui doit son nom au scientifique et dissident politique russe Andrei Sakharov, et qui vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui défendent les droits de l'homme, la démocratie et la liberté d'expression, et lutte aussi contre l'intolérance et l'oppression partout dans le monde. Voilà, il a été créé en 1988 et le prix est attribué chaque année par le Parlement européen lors d'une séance solennelle organisée à Strasbourg. Et si le calendrier le permet, le prix est remis à la date la plus proche possible du 10 décembre, la date de l'anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies en 1948. Et alors parmi les lauréats, on peut citer effectivement Nelson Mandela, dont Aurélie nous avait parlé, mais également Alexander un Tchécoslovaque, voilà, je vais pas y arriver, donc on retrouve Las Madres de la Plaza de Mayo, les maires de la Place de Mai d'Argentine, on retrouve Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix également, Ibrahim Rugova du Kosovo, on retrouve également l'ONU et son secrétaire général de l'époque, c'était du temps de Kofi Annan. Voilà, donc plein de...
Bah, il n'y avait pas Malala dont nous avait parlé Anne-Marie.
Si, bien sûr, effectivement. Je crois que c'est la dernière, effectivement, à avoir reçu effectivement ce prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Voilà, donc c'est aussi une instance qui se positionne dans ce débat international et qui porte aussi, même si on ne va pas y revenir, mais la politique internationale de l'Union, et en tous les cas, il est impliqué aussi dans ces aspects-là.
Et donc, tu nous parlais d'un mois tout à l'heure très chargé pour les députés européens, mais tu peux nous en dire plus, comment ça se passe un mois au Parlement ?
Alors, comment ça se passe un mois au Parlement ? C'est facile, c'est des semaines de couleur. Alors, ça commence
pas daltonien.
Alors, ça commence pas, ça finit plutôt par les semaines roses, qui sont en fait, non, ça finit pas. Non, c'est les semaines. Normalement, on va commencer par les semaines roses, pardon, qui sont les commissions parlementaires. Donc, il y a une vingtaine de commissions parlementaires thématiques, hein, qui ont chacune un thème, l'environnement, les transports, l'industrie, le budget, etc., et qui, dans lesquelles sont représentées les différentes tendances politiques, et dans lesquelles, bah, vraiment, le but est de préparer le travail de la plénière. Donc, ça, ils se réunissent en semaine rose. Voilà, donc c'est une première partie des débats et une orientation des rapports qui seront présentés à la session plénière. Et c'est là aussi qu'ils travaillent sur leur rapport d'initiative. Il y a un certain nombre de rapports qui sont écrits par les commissions, enfin en tous les cas débattus par les commissions, et qui sont proposés pour une approbation par le Parlement. Alors ensuite, on passe aux semaines rouges, les sessions plénières. Et donc là, les semaines rouges ont lieu à Strasbourg, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est vraiment pendant une semaine, les députés sont dans l'hémicycle et votent les textes qu'ils ont préparés au cours du mois qui a précédé, puisqu'au final, on va faire les autres semaines, mais c'est vraiment le point d'orgue à chaque fois du fonctionnement parlementaire. Voilà. Les députés adoptent aussi des résolutions et interrogent aussi les représentants de la Commission et du Conseil sur des thèmes d'actualité. Ils peuvent recevoir aussi la visite de chefs d'État ou de gouvernement et des personnalités du monde entier. Mais ça avait été notamment le cas pour le président de la République il y a quelques temps après son élection. Alors, les semaines bleues, donc là, on change de couleur une fois de plus.
Rien à voir avec les maisons de retraite.
Non, ça, y a pas, voilà, effectivement, la fameuse semaine bleue, ça n'a pas de lien. Au lieu de siéger, pendant les semaines bleues, c'est réservé pour les groupes politiques. Et donc, chacun des groupes politiques travaille de façon commune pour notamment préparer les votes lors de la semaine rouge, c'est-à-dire de se dire comment on se positionne par rapport à telle et telle proposition. Donc, il y a le travail en commission qui est un travail préparatoire. Il y a le positionnement des différents groupes et la discussion au sein des groupes politiques. Et puis après, il y a les semaines turquoises. Alors là, c'est un peu les semaines de vacances, entre guillemets. Mais non, en fait, c'est les semaines où les députés sont sur leur circonscription. Donc, ce n'est pas des semaines de vacances. C'est là où ils viennent aussi au contact de leurs concitoyens. Et c'est aussi les semaines sur lesquelles les députés vont faire leur mission à l'extérieur, puisqu'il y a un certain nombre qui vont faire des missions à l'extérieur. Voilà.
Et quand ils vont, par exemple, suivre des élections, des choses comme
voilà,
ça.
Voilà, ce genre de choses, par exemple.
D'accord. Et du coup, en fait, ils sont tous ensemble, donc 700 et quelques, tu nous as dit.
Non, 300.
300,
voilà. Je ne sais plus.
Je ne sais plus ce que tu nous as dit.
Je reprends mes fiches, mais il me semble que c'était. Non, mais tu as peut-être raison, c'est peut-être bien 700. Hein.
Oui, je t'ai écouté, tu vois, je ne dormais pas totalement.
Enfin, bon, ils des sont centaines donc, d'eurodéputés.
Ils sont donc très nombreux. Et,
je reprends mes fiches.
Ils viennent évidemment de toute l'Europe. Ça se passe comment, du coup, au niveau des débats? Parce que ça doit être assez compliqué.
Oui, 736.
S'il faut se mettre à parler finnois ou même italien ou français.
Oui, alors, le Parlement dispose d'un service entièrement multilingue pour toutes les sessions plénières et pour toutes les autres réunions, avec un service de traduction qui prépare tous les documents. Ce qui permet, au final, pour les députés, de s'exprimer dans la langue de leur choix et notamment dans leur langue. Et donc grâce au traducteur, tous les documents de travail du Parlement sont disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union, et c'est toujours cette devise qui se concrétise, l'Union dans la diversité, et c'est aussi cette diversité culturelle de l'Union européenne qui est retracée ici rendant compte justement de ces travaux et qui sont aussi accessibles pour l'ensemble des citoyens dans toutes les langues.
Merci en tout cas pour toutes ces informations. Et puis donc, on le rappelle, on va voter donc le 25 mai.
C'est ça, tout à fait.
Bon, et puis alors, pour finir cette chronique, tu nous proposes quel genre de musique?
Allez, je vais rester dans les musiques un peu kitsch, hein, après Tata Yo-Yo, pendant la dernière quinzaine. Pardon.
Tu te rappelles même plus.
Non, c'était Annie Cordy, ça reste quand même Annie Cordy.
Tu les connais toutes, en fait, c'est ouais, ça c'est que ça. Tu voulais nous dire.
Il y a des posters dans la chambre de Guillaume d'Annie Cordy.
C'est
ça. Mais là, c'est pas Annie Cordy.
C'est pas Annie Cordy, c'est Nana Mouskouri.
Ah
Donc Nana Mouskouri, hein, la chanteuse grecque qui est eurodéputée et qui, au moment de la crise, dans son pays, a décidé de reverser ses indemnités de député européen à son pays. Alors, c'est une petite goutte d'eau, mais voilà, c'est toujours ça.
C'est
un beau geste, en tout cas.
Voilà, et donc, l'hymne à la joie, c'est l'hymne de l'Union européenne. Voilà. Là, on retrouve aussi toutes ces notions d'unité dans la diversité, du rôle de paix, de l'union, tout ça, on écoute.
Et que toute notre...
tu,
elle
et lui. Et voilà, c'est la troisième partie. On va retrouver Anne-Marie. On reste en Europe et on va parler d'Eurovision.
Aussi une élection, remarque.
Exactement.
Peut-être qu'il faudrait voter avec des points pour les élections européennes. Mais bon, alors vas-y, tu vas peut-être.
Ça sera quand l'Eurovision? Ouais.
Alors c'est bientôt, c'est très très bientôt puisque c'est le samedi 10 mai à 20h30.
Le lendemain de la fête de l'Europe.
Ce sera donc la 59e édition du célèbre concours européen de la chanson. Cette fois-ci, la compétition musicale se déroulera à Copenhague, hein, au Danemark. Vous pourrez regarder ce programme et voter en direct. Donc rendez-vous devant le petit écran sur France 3. Le samedi 10 mai, donc, 26 pays européens seront en compétition. Et bien sûr, la France en fera partie.
Alors justement, qui est-ce qui va représenter la France?
C'est le groupe Twin Twin qui va défendre notre drapeau tricolore. Trois jeunes hommes le composent, à savoir les frères Laurent Idir et François Djemel. Alors, ils n'ont pas le même nom, ils sont bien des frères, puisqu'en fait, de leur vrai nom, ils s'appellent Ardouvin. Simplement, ce sont des noms de scène.
C'est moins vendeur, peut-être.
Voilà. Et le troisième, il s'appelle Patrick Billic. Ce groupe n'est pas inconnu, puisqu'il existe...
Un peu quand même.
Moi, déjà, Twin Twin, je pensais qu'il était chinois.
Alors, il n'est pas complètement inconnu, même si effectivement, moi, j'en avais jamais entendu parler avant de l'Eurovision. Donc, ce groupe Twin Twin existe depuis 4 ans et il a déjà réalisé quand même 250 concerts dans différents pays. Après s'être essayé à la danse, au cinéma, à l'écriture d'un roman même, et à la création d'un jeu vidéo, ils proposent leur univers musical coloré, influencé d'ailleurs par toutes leurs expériences, justement, que ce soit au niveau du cinéma ou de la danse. Ils doivent leur popularité à leur chanson « By My Side », sortie en 2011, et d'ailleurs je vous propose d'en écouter un extrait.
Hey, regardez là-bas. Perdu seras-tu? Si je suis seul, seras-tu? Si je tombe, seras-tu? Si je suis triste, seras-tu?
Alors, pour information.
Alors moi, je connaissais pas. Hein.
Moi non plus. Non, honnêtement,
parce que
je
c'est censé ce qui leur a été le début de leur popularité, mais bon, voilà, bon, peu importe.
Alors, pour information.
En tous les cas, ça bouge.
Oui, puis j'ai pas dit qu'ils étaient connus comme Céline Dion. Voilà, encore d'accord. Une fois, ils ont quand même réalisé 250 concerts. Donc ça veut dire que voilà, certaines personnes ont déjà.
On était les voir.
Voilà, ont déjà écouté Twin Twin. Alors pour info, donc Twin Twin a été en compétition avec la chanteuse Johanna Lagrave, ancienne candidate de La Nouvelle Star, et le boys band Destan. Car avant la finale de l'Eurovision, il y a évidemment une sélection. Mm-hmm. C'est un jury de professionnels et le public hein, qui ont voté pour le groupe parisien. Avec le titre « Moustache ». D'ailleurs, on en écoute un petit extrait maintenant. Et puis, à la fin de cette chronique, on écoutera la chanson en entier.
Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Chez moi, tout est neuf, tout est beau. Le monde pleure derrière mes rideaux. Je m'en fous, j'habite au dernier étage. Je connais même pas ma femme de ménage. Y'a du cuir dans ma voiture. L'odeur de mon parfum me rassure. Je n'aime pas montrer mes émotions à la salle de musculation. Je soulève quelques poids et haltères. Mon corps est une machine de guerre. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout. C'est vrai, mais moi je voulais une moustache. Une moustache. Une moustache.
Non, on veut rien dire, mais Anne-Marie, elle est à fond. Ouais,
elle a bien travaillé sa chronique, elle connaît la chanson par cœur.
Et puis même avec
la
chorégraphie, enfin tout est, elle tape dans les mains.
Et là, on pourrait gagner. Moi, je propose, votez pour Anne-Marie, on va gagner l'Eurovision.
Alors juste une petite parenthèse en fait par rapport à Moustache, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est que en fait c'était un copain qui leur disait bah voilà dans ma vie j'ai tout, je suis mariée, j'ai du fric tout ça, mais il me manque juste une moustache et c'est à partir de là qu'ils ont décidé en fait d'écrire cette chanson.
Ça a fait la blague.
Voilà.
Et alors
exactement.
Qu'est-ce que t'en penses parce que on a vu la choré, la chanson, donc j'imagine que ça te plaît.
Alors vous n'avez pas vu le clip, mais en tout cas si vous avez envie d'aller le voir, n'hésitez pas d'aller sur YouTube, c'est assez marrant, on a l'impression qu'ils sont dans un jeu, un petit peu comme Question pour un champion. Enfin ça reprend un petit peu aussi l'univers des inconnus dans Télémagouille, on s'en met plein les
fouilles.
Voilà.
Je suis moi monsieur.
Alors les Twin Twin ont quand même le mérite de proposer un univers original, coloré, dopé à la vitamine C qui pourrait nous faire penser à celui de Stromae. Cependant, soyons honnêtes, en moins beau, en moins poétique et en plus déluré, n'est pas Stromae qui veut. Mais bon, après tout, pourquoi pas, les Twin Twin amènent un vent de fraîcheur, présentent un petit peu d'originalité dans un concours devenu de plus en plus kitsch et on en reparlera tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier que l'Eurovision est un concours européen. Et donc, peu de téléspectateurs vont comprendre les paroles de la chanson et peut-être même trouver
l'univers. Donc, on peut écrire des textes totalement nuls. Quoi. Ouais.
Exactement.
C'est un petit la musique, elle est quand même super sympa. C'est vrai que c'est entraînant et tout ça. Le texte, waouh. Donc sauf, là, bon, bah, on a de la chance.
Sauf que comme les téléspectateurs ne vont pas comprendre, ils vont aussi penser que l'univers est complètement déjanté. Bref, les Twin Twin prennent le risque d'être juste pris pour des clowns. Mais je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, attendant de voir leurs prestations et celles des autres candidats le samedi 10 mai. Et puis en plus, ceux qui vont écouter la rediffusion de cette émission auront déjà les résultats, donc à voir. Une chose est sûre, eux-mêmes ne se voient pas monter sur la première marche du podium. Les Twin Twin ont récemment déclaré qu'ils aimeraient être au moins dans le top 15, parce que ça n'a pas été fait depuis longtemps, là je les ai cités. L'année dernière, Amandine Bourgeois, qui avait donc représenté la France, était arrivée 23e sur 26 avec sa chanson « L'enfer et moi ».
Alors la France n'a jamais vraiment brillé dans le concours. Et la dernière chanteuse à avoir remporté l'Eurovision, c'était Marie-Myriam, non ? C'est pas ça ?
Exact. Et là, ça fait mal quand même. La sauce ne prend plus
en 30 ans, c'était un truc comme ça.
À peu près, bon, on va voir.
C'était l'oiseau et l'enfant, c'est ça ?
Voilà.
Comme un enfant,
t'as vu comme on est culturel aux yeux de lumière.
C'est pas ça, non ?
C'est exactement ça.
Voilà, moi je propose un duo Guillaume et Marie. Vous êtes tellement forts en Eurovision qu'on va gagner. Voilà.
Mais sûrement, moi je suis en Eurovision des années 70. Hein, donc.
Bah, c'est pas grave, tu chantes bien, tu viens de nous le prouver avec la choré d'Anne-Marie.
Oui, puis l'autre fois, je rappelle aux auditeurs quand même que tu avais chanté Le Rêve Bleu, n'est-ce pas ? À l'occasion de ma chronique sur Disney. Donc la sauce ne prend plus vraiment entre la France et l'Eurovision, et ce depuis quelques années. En réalité, depuis la création du concours musical, la France a remporté le concours à 5 reprises, mais on le verra plus tard, et ben, c'est pas si mal que ça. Alors les cinq fois où on a gagné, eh bien je vais vous faire donc un petit historique. La première fois c'était en 1958 avec la chanson « Dors mon amour » interprétée par André Claveau. La deuxième fois, c'était en 1960, avec la chanson « Tom Pilibi » interprétée par Jacqueline Boyer. La troisième fois que nous avons gagné, c'était en 1962, avec la chanson « Un premier amour » interprétée par Isabelle Aubray. La quatrième fois, c'était en 1969, avec la chanson « Un jour, un enfant » interprétée par Frida Pokhara. Et enfin, la dernière fois, et là on reste toujours avec cet univers de l'enfant, puisque c'était bien évidemment « L'oiseau et l'enfant », la chanson donc interprétée par Marie-Myriam en 77. Donc vous voyez, ça fait quand même
pas
un
très
petit
longtemps.
Bout de temps.
Non, ça va.
Bah, ça fait juste 37 ans, quoi. Hein ? Alors, petit lot de consolation, la France a terminé à la deuxième place à 4 reprises, à savoir en 57, en 76, en 90 et en 91. Et la France a terminé à la troisième place à 7 reprises, en 59, en 65, en 67, en 68, en 79 et enfin en 81.
Oui, non, ça veut dire que quand même, ces derniers temps, moyen, quoi.
Bah, ce qui veut dire tout simplement que depuis 1992, la France n'est plus montée sur le podium. Mais là, vous allez tous crier cocorico, parce que la France est le pays participant à avoir le plus souvent terminé aux 3e et 4e places au concours de l'Eurovision. Et surtout, la France n'a jamais terminé à la dernière place.
Ben voilà, un bon objectif pour Twin Twin, arriver à la dernière place et être...
ou ne pas être à la dernière. L'autre, elle était 23e sur 26. Bon, ben, ils peuvent être 24e ou 25e.
Bon, alors, quels sont les artistes connus qui ont défendu les couleurs de la France ?
Alors, pas Céline Dion ni Lara Fabian, puisqu'elles n'ont pas défendu les couleurs de la France. Mais en 1963, et là, c'est mon préféré, c'est quand même Alain Barrière qui nous a chanté « Elle était si jolie », malgré cette chanson qui, je trouve, est magnifique. Alain Barrière est arrivé seulement cinquième, et puis on en écoute un petit extrait.
Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait.
On n'avait pas le droit de critiquer. Hein. C'est vraiment...
Non, Alain Barrière, c'est mon chouchou.
D'accord.
En 1971, Serge Lama, que vous connaissez tous aussi, a interprété Un jardin sur la terre, mais n'a obtenu finalement que la 10e place. 10e également pour Gérard Lenormand, en 1988, qui avait chanté à l'époque Chanteur de charme. C'est en 1993 que le Corse Patrick Fiori a échoué au pied du podium avec la chanson Mama Corsica. Et donc, il avait chanté cette chanson en Corse. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de téléspectateurs qui comprennent le français, mais alors là, en Corse, vous comprenez bien que...
Mais il y avait les Corses.
Voilà. On était complètement has-been, mais bon, on a quand
ça
même...
Ça pouvait plaire aux Italiens.
Oui, bah, on est quand même arrivé quatrième, donc c'était pas mal du tout. Et quatrième aussi pour Natacha Saint-Pierre en 2001 avec sa chanson « Je n'ai que mon âme ». Les autres ont eu beaucoup moins de chance, hein, comme les Fatal Picard, Patricia Cass, Amaury Vassali, Angoune. Et puis, je l'ai dit, hein, Amandine Bourgeois, l'an dernier, qui était arrivée 23e sur 26, mais les autres n'ont pas fait mieux, ils n'ont pas réussi à séduire nos voisins européens.
Alors, pourquoi et comment a été créé ce concours, si on fait un peu d'histoire, là parce que...
Effectivement, alors on ouvre une petite page historique. Alors, le concours hein, trouve ses origines dans le contexte géopolitique des années 1950 et la volonté des dirigeants politiques de l'époque de créer des liens indissolubles entre les pays européens. C'est ainsi que fut fondée en 1950 l'Union européenne de radio-télévision, à savoir UER, qui rassemblait les radios et téléviseurs publics des principaux pays d'Europe de l'Ouest. Ceux-ci souhaitaient mettre leurs ressources en commun afin d'améliorer la qualité de leurs programmes. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément justifié, mais bon, on verra.
Il y a notamment, par l'Eurovision, la couverture des événements européens, enfin des grands événements. Alors, il y a la Mondovision aussi, mais il y a l'Eurovision pour couvrir un certain nombre d'événements où, finalement, les différents télédiffuseurs, les différentes radios mutualisent les moyens techniques pour la couverture de grands événements d'ampleur européenne, voire mondiale. Voilà.
Tout à fait. Alors, le concours est donc ouvert aux seuls membres actifs de l'Union européenne de radio-télévision. Cela inclut donc des pays situés en Europe, en Asie et en Afrique. Le concours est aussi retransmis en direct sur les autres continents, notamment en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, en Corée du Sud, aux États-Unis et même en Nouvelle-Zélande.
Franchement, ils ont bien de la... Je sais pas pour... Parce que franchement, c'est quand même pas le programme télévisuel le plus sympathique au monde. Hein, parce que c'est long.
Mais après, ils sont pas obligés de regarder non plus, on leur propose.
Certes, mais bon, enfin voilà.
Il y a d'autres chaînes, Guillaume.
C'est long, les notes, ça met 30 ans. Enfin bon, c'est...
Alors, à l'heure actuelle, le concours demeure l'un des plus anciens programmes télévisés au monde et le plus important concours musical jamais organisé. Son succès a dépassé les frontières du continent européen et il a inspiré de nombreuses autres compétitions musicales. Alors, le tout premier concours de l'Eurovision de la chanson a eu lieu le jeudi 24 mai 1956 en Suisse. 7 pays ont concouru pour le Grand Prix. Alors, il y avait l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Et c'est la Suisse qui a remporté cette première édition. À l'époque, chaque juré pouvait attribuer 2 points à la chanson de sa préférence. Les jurés avaient le droit de voter pour une chanson de leur propre pays. Les résultats complets ne furent jamais rendus publics en 1956. Les bulletins de vote furent détruits immédiatement. En 1957, les jurys n'ont plus le droit de voter pour une chanson de leur propre pays. Il faut attendre 1997 pour que dans 5 pays, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse, le vote fut décidé par télévote. Désormais, pour tous les pays, un jury international et le vote des téléspectateurs sont combinés pour établir le palmarès. Depuis la création de l'Eurovision, c'est la Finlande qui a remporté le plus de fois la compétition, à savoir 7 fois. Et je vous le rappelle, 5 fois pour la France. Donc on n'est pas si mauvais que ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Il y en a qui ont fait 5, 6, tu peux nous dire ? Non ?
C'était la colle du jour, merci Guillaume. Moi je voudrais savoir, parce que t'as vu, on se moque un petit peu quand même, mais ce concours, il a quand même encore du succès puisqu'il continue.
Il a du succès, mais c'est vrai qu'on a tendance quand même à se moquer pas mal de ce concours, hein, ringard, voire kitsch à souhait, mettant en lumière des musiques commerciales. L'Eurovision a quand même permis à certains chanteurs de bénéficier d'une vitrine internationale extraordinaire, comme le groupe ABBA, Julio Iglesias, Céline Dion, Patricia Cass. Il est vrai que les prestations artistiques de ces dernières années ne sont pas toujours à la hauteur, entre chorégraphies ridicules pour certains et chansons toutes pourries pour d'autres. Et pourtant,
voilà, ça c'est dit.
Voilà. Et pourtant, en 2011, ce sont 70 millions de téléspectateurs dans le monde qui ont regardé l'Eurovision. Un petit peu moins en 2012 avec 64 millions.
Oui, c'est quand même un peu plus facile parce que ça permet déjà de ramasser sur tous les pays.
Ah oui. Donc... Concernant les résultats du choix final, il y a là aussi à redire. Alors, le côté géopolitique est à prendre en compte, hein, lors des votes de ce concours européen. Comme l'a assuré d'ailleurs la chanteuse Angoun, qui avait donc représenté la France en 2012 et qui était arrivée 22e sur 26. Alors, elle disait en 2012, le copinage, la politesse entre pays qui se sont tapés dessus et qui s'aiment aujourd'hui à la folie, ça existe. Enfin, des enjeux économiques s'immiscent dans ce concours, comme l'aurait confié en 2012 la candidate espagnole Pastora Soler. Alors, selon elle, on lui aurait conseillé de ne pas gagner la finale. La raison en est étonnante. En cas de victoire, le pays gagnant doit organiser le concours l'année suivante. Et cela coûte très cher. Donc voyons si le samedi 10 mai, la France avec les Twin Twins devra s'occuper ou pas de l'organisation en 2015 de l'Eurovision à l'occasion de la 60e édition. Et en tout cas, voilà, si vous avez bien aimé Twin Twin en écoutant cette chronique ou en allant sur YouTube ou encore en les voyant à l'Eurovision, eh bien, vous pouvez acheter leur album qui s'appelle Vive la vie, qui était sorti en avril dernier.
D'accord. Donc, en attendant que la finale de l'Eurovision ait lieu à Mende quand
Anne-Marie aura gagné.
Quand Twin Twin aura gagné, déjà, cette année peut-être, et pour faire les 60 ans de l'Eurovision à Mende, ça serait très, très, très drôle. Je pense qu'on s'amuserait bien. Donc, tu nous proposes d'écouter la chanson en entier ?
La moustache ?
Et voilà,
allez, on
c'est
y
parti.
Va.
Donc, je vous préviens, voilà, sortez, levez-vous, préparez-vous, dansez, bougez les bras. Voilà, Anne-Marie a déjà commencé. Donc,
je suis chaude.
Voilà.
Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Chez moi, tout est neuf, tout est beau. Le monde pleure derrière mes rideaux. Je m'en fous, j'habite au dernier étage. Je connais même pas ma femme de ménage. Y'a du cuir dans ma voiture. L'odeur de mon parfum me rassure. Je n'aime pas montrer mes émotions à la salle de musculation. Je soulève quelques poids et haltères. Mon corps est une machine de guerre. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout. C'est vrai, mais moi je voulais une moustache. Une moustache. Une moustache. De choses derrière mes placards. J'ai des amis quand même. Et même j'ai des amis qui m'aiment. Je me dis j'ai tout pour plaire. J'ai tout pour. J'ai le monde à mes pieds, c'est fou. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai. Mais moi je voulais une moustache. Une moustache. Une moustache. Une moustache. Une moustache. Une moustache. Une moustache.
elle
et lui.
Et voilà, c'est malheureusement déjà la fin. Ah, on vous donne rendez-vous pour nos rediffusions, bien évidemment. Donc le jeudi à 12h30 et le mardi à 18h11. Au lieu de vous moquer de moi, les filles. Hein.
Mais je sais pas, ta voix, elle a fait un petit. Elle est montée un petit peu dans les aigus, bizarrement. Donc,
voilà. Fait sa mue.
Voilà, ça doit être ça. C'est l'Europe, ça, lui. Ça l'émeut.
Ah là là là, oui, c'est pas facile quand même. C'est pas facile déjà.
Et d'ailleurs, Guillaume, quand est-ce que tu auras une moustache?
Bah, j'ai déjà la barbe, alors c'est...
Oui, mais justement.
Bah, voilà. Mais d'ailleurs, non, voyez quand voilà. Même, voyez Anne-Marie.
Elle va faire cette chanson. Elle va voter.
Moi, je vais voter pour Twink Twink.
C'est bien, au moins, il y aura quelqu'un qui votera.
Le 10, ne cherchez pas Anne-Marie, elle sera devant sa télé, en train de voter pour Twink Twink.
Très bien, mais écoutez, on vous souhaite à tous une bonne semaine.
À bientôt.
À très bientôt.
Merci.
Actu,
elle
et lui.
Actu,
actu, actu,
elle
et lui.
Elle,
lui, d'actuel
et lui.